France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Rachid Santaki, bonjour.
Bonjour Olivia.
Écrivain, auteur de polar, vous êtes notre monsieur dictée géante désormais, une idée que vous avez labellisée. La dictée, c'est un exercice plutôt classique que vous revisitez depuis quelques années à grande échelle. Pour quel public ?
Pour tous les publics. Au départ, la dictée est née spontanément, une veille de rentrée dans une cité. Et finalement, au fil de... Déjà, cette première date m'avait impressionné. Je m'attendais à avoir une cinquantaine de participants. Et à 11h, on avait à peu près 250 personnes, des familles, qui n'attendaient que la dictée. J'ai choisi un texte, un passage difficile des Trois Mousquetaires. Donc, j'ai énormément sué au moment de la lecture, avec des enfants qui pleuraient à gauche et à droite. J'ai réitéré l'exercice un mois plus tard. Et là, j'ai commencé à comprendre que la lecture, elle avait pour objectif de permettre d'encourager en tout cas des participants jeunes et moins jeunes. Et depuis 7 ans, j'ai lu à peu près 300 dictées, j'ai sillonné tout le pays et je pense que le moment le plus fort qui m'a marqué en tout cas, ce sont les maisons d'arrêt. J'ai pu faire une cinquantaine de maisons d'arrêt et réunir tous les publics en détention et c'est magique. Donc la dictée, c'est un jeu, rassurez-vous.
Voilà, est-ce que chacun chez vous, vous avez eu le temps de vous procurer une feuille de papier, un stylo, parce qu'on va bientôt commencer. Aujourd'hui juste, quel texte vous avez choisi d'articuler pour nous? C'est comme ça la dictée, hein. On articule bien et on marque les ponctuations pour pas perdre son auditeur et son auditoire.
Et on me demande aussi de bien faire les accords.
Ah.
Pour aider...
Il y en a dans le texte qui suit.
Voilà, je vais essayer de faire les accords. Nous sommes en période de... rentrée scolaire et du coup j'ai été piocher un extrait de l'ouvrage Au bonheur des dames d'Émile Zola. J'ai essayé de trouver un passage qui va vous interroger, turlupiner sur certaines matières. Donc voilà un peu l'idée, bien évidemment, chères participantes et chers participants, nous sommes là pour nous amuser et je trouve que l'exercice de la dictée, il a... pour vocation de nous interroger, de susciter la curiosité. Et donc, nous sommes dans le thème.
Et celle qui vient de dire « Oh non, c'est la romancière Alice Zénitaire, auteure en cette rentrée de « Comme un empire dans un empire » chez Flammarion, auteur il y a 3 ans de « L'art de perdre », prix Goncourt des lycéens, avec nous pour tester cet exercice de la dictée, tester vos connaissances en linge et en matière, avec cette première d'Émile Zola au bonheur des dames. Mais vous avez surtout accepté de prendre note, de poser les questions qui fâchent et qui sait aussi nous aider à nous réconcilier, comme vous, avec l'orthographe. À vos côtés, il y a l'historien Jean-Noël Jeannonet qui publie, lui, en cette rentrée, Le Rocher de Sustaine, Mémoire, 1942-1982. C'est au Seuil et qui est... le livre est aujourd'hui en librairie. Et vous étiez ce matin sur l'antenne de France Culture pour Concordance des temps, l'émission que vous produisez. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là, d'avoir accepté de jouer le jeu de cette dictée que Rachid Santaki va commencer tout de suite. Vous ne connaissez pas le texte, vous n'avez pas pu réviser, comme les auditeurs de France Culture qui sont avec nous. Rachid Santaki, c'est à vous.
Très bien. Donc je vais, Olivia, rappeler, enfin donner les consignes à nos participantes et participants. Je vais lire le texte à 2 reprises. Une première lecture pour vous permettre de vous familiariser ou identifier les éventuelles difficultés. Et une seconde lecture où là, nous passerons aux choses sérieuses. Donc, à l'écriture. N'oubliez pas, et je le précise pour les plus jeunes, nous sommes là pour nous amuser. Les parents, je vous demanderai de ne pas mettre la pression aux enfants, et vous aussi.
Et les enfants, de ne pas souffler aux parents.
Merci. C'est parti. Donc, c'est un extrait de l'ouvrage « Au bonheur des dames » d'Émile Zola. Il venait de lancer son invention, le parapluie à godet, qui plus tard devait se populariser. Du reste, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Alors, la lutte s'engagea sur les prix. Il eut un article à 1,95 franc en Zanella, monture acier, inusable, disait l'étiquette. La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, des manches de bambou, de cornouiller, d'olivier, de myrte, de rotin. Toutes les variétés de manches imaginables. Le bonheur, moins artiste, soignait l'étoffe, vantait ses alpagas et ses mohairs, ses sergés et ses taffetas cuits. Et la victoire lui resta. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, sans espoir de les vendre. Point final.
Le bonheur moins artiste soignait l'étoffe. Vous êtes prêts? Les crayons sont taillés.
Vous êtes sûr que c'est Sergé, c'est pas Serge?
Sergé.
Ne commencez pas, Jean-Noël.
Il triche, il essaie d'avoir des indices.
Allez, c'est parti maintenant pour la dictée.
Alors, je vais vous donner...
Ceux qui sont avec nous peuvent écrire. Hein.
Oui, je vais vous donner quand même un indice. Bonheur, on mettra une majuscule puisqu'il s'agit d'une enseigne. Voilà. Très belle et bonne dictée à toutes et à tous.
Merci.
Et amusez-vous bien. Il venait de lancer son invention, virgule. Il venait de lancer son invention, virgule. Le parapluie à godet, virgule. Donc je répète pour les plus jeunes, il venait de lancer son invention, virgule, le parapluie à godet, virgule, qui plus tard devait se populariser, point. Donc je répète, le parapluie à godet, virgule, qui plus tard devait se populariser, point. Du reste, virgule, le bonheur perfectionna. Du reste, virgule, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Point.
Vous avez bien dit immédiatement.
Immédiatement. Ouais. Alors, virgule, la lutte. Alors, virgule, la lutte s'engagea sur les prix. Point. Alors, virgule, la lutte s'engagea sur les prix. Point. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En zanella, virgule. Il eut un article à 1 franc 95, virgule, en zanella, virgule, monture acier, virgule, en zanella, virgule, monture acier, virgule, inusable, virgule, inusable, virgule, disait l'étiquette, point. Je répète cette dernière phrase pour les écoliers. Il eut un article à 1 franc 95, virgule, en zanella, virgule, monture acier, virgule, inusable, virgule, disait l'étiquette, point. Les écoliers peuvent s'arrêter ici. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, virgule. Avec ses manches, virgule. Des manches de bambou, virgule. Je répète, mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, virgule, des manches de bambou, virgule, de cornouiller, virgule, de cornouiller, virgule, d'olivier, virgule, de myrte, virgule. Donc je répète, de cornouiller, virgule, d'olivier, virgule, de myrte, virgule, de rotin, virgule. Toutes les variétés de manches imaginables, point. Toutes les variétés de manches imaginables, point.
Est-ce que ça va dans le studio pour le rythme? Vous avez à prendre note, à réfléchir en même temps, on accélère un tout petit peu, poil.
Le bonheur, virgule, moins artiste, virgule. Moins artiste, virgule, soignait l'étoffe, virgule, soignait l'étoffe, virgule, vantait ses alpagas, et ses mohairs, virgule, et ses mohairs, virgule, ses sergés, et ses taffetas cuits, point. Donc je répète, essai moher, virgule. C'est Sergé. Essai taffeta, cuit, point. Et la victoire lui resta, virgule. Et la victoire lui resta, virgule. Le vieillard désespéré. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule. Je répète. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule. Qu'il en était réduit. Qu'il en était réduit. Qu'il en était réduit à tailler ses manches. Qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule. Qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule, sans espoir de les vendre, point final. Sans espoir de les vendre, point final.
Je peux juste vous demander, vous avez dit une virgule après la victoire lui resta avant le vieillard, c'est bien ça?
Alors, et la victoire lui resta, virgule, effectivement, le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule, sans espoir de les vendre, point final.
Il y a combien d'accents à désespérer?
Pas beaucoup.
Quand même. Tout s'est bien passé, Jean-Noël Jeannonet?
J'en ai le sentiment, j'ai une ou deux hésitations, mais j'attends la correction du maître avec une curiosité inquiète.
Est-ce que vous rendez les copies?
Oui, je vous la rends.
Il n'y a pas de... très peu de ratures chez vous, hein?
Oui, il y a
un mot. Peu d'hésitation. Et chez Alice Zéniter, comment ça s'est passé pour vous?
Ça va, je ne sais pas combien de godets a ce parapluie qui est censé être devenu populaire, mais jamais on m'en a parlé de ce parapluie, donc je ne sais pas s'il a un godet, deux godets, dix godets. C'était ma première grosse question. Et après, j'avais peur de pire. Je dois avouer que le haut nom, c'est, je me suis dit, ça va être la grande exposition du blanc, qui est un moment du Bonheur des Dames où on se fait écraser par le vocabulaire de toutes les étoffes du monde qui défilent. Et ça va. Heureusement, il y avait un peu de narration entre les étoffes.
Alors, qui peut m'expliquer peut-être d'abord ce que c'est qu'un parapluie à godet?
Un godet, c'est un récipient. Par contre, je n'ai pas trouvé de parapluie à godet. J'en ai cherché, je ne sais pas si vous...
On peut imaginer qu'il y a un récipient qui permet de recueillir l'eau de pluie pour éviter de mouiller les endroits où on va. Et donc, après la même hésitation que vous, j'ai décidé de ne pas mettre de S.
Singulier.
À godet. Et ils avaient raison. Oui. Ils ont raison, l'un et l'autre. Donc, un parapluie à godet, qu'on écrit comment godet?
Singulier, G-O-D-E-T.
Voilà, sans S. Bravo à tous les deux, en tout cas, pour ce premier point de difficulté. C'était donc La Dictée de Rachid Santaki, extrait de Au bonheur des dames, d'Émile Zola, volume de cette vaste suite romanesque des Rougon-Macquart, que l'on vient de dépeler, écouter à travers votre diction parfaite, et que nos auditeurs ont pu, je l'espère, noter. On mettra l'intégralité du texte de cette dictée, et il l'est même déjà, sûrement maintenant, sur le site de En français dans le texte, sur franceculture.fr. Vous pouvez, si vous avez des points de tension, des points d'hésitation, allez tout de suite regarder, jeter un œil sur le site pour voir si vous avez juste ou faux. On va revenir sur les niveaux de difficulté. Donc c'est ces matières, c'est ça qui est particulièrement difficile, d'autant qu'un certain nombre de matériaux, de bois, de tissus ne sont plus aussi utilisés, usités aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Vous voulez attirer notre attention peut-être sur l'alpaga, ces alpagas et ces mohairs.
Non, le zanella.
Le zanella. Mais finalement, le zanella,
alors,
s'écrit à peu près comme ça se prononce.
Voilà,
vous l'avez écrit comment, vous, Alice Zéniter, le zanella?
Z-A-N-E-L-A.
Okay. Moi, j'ai mis deux L, chère Alice.
C'est bien.
Ouais.
C'est bien.
Eh bien, il y avait effectivement deux L. Un N et deux L à zanella. Zanella, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où?
Alors, c'est une matière, c'est le seul mot. Je n'ai pas réussi à... Je sais qu'il s'agit d'une matière. J'ai vu des pantalons en zanella, mais je n'ai pas réussi à trouver la description exacte de cette matière.
J'ai pensé qu'en général, entre une voyelle et une voyelle, il y avait plutôt deux ailes. Il appelle, mais...
Moi, j'aimerais bien savoir si c'est une fibre ou un tissage. Voilà.
Grande question.
Alpaga, mohair, sergé. Ça, c'était votre point de difficulté, Jean-Noël Jeannonet.
Oui, j'ai pris un riz, j'ai écrit ça comme à partir de la serge, je pense, à partir de la serge, et j'ai mis un accent aigu, puisque vous le prononciez comme ça.
Oui, très bien. Sergé, nom masculin, tissu à côte, oblique.
Pour
Je
on voit pas ce que c'est.
Serger.
Vous ne demandez pas de dire ce que c'est, vous nous demandez d'écrire juste.
Exactement. Et moi, je vous donne l'indication.
Myrte, comment vous avez écrit le ou la Myrte, d'ailleurs?
Heureusement, c'était alors, pas précisé. M-Y-R-T-E.
Vous, Alice, bravo.
Très bien.
À ne pas confondre avec l'Amir, du coup.
Voilà, et c'est un nom.
M-Y-R-H. Deux R-H. Donc,
le Myrte, c'est un arbre, un arbrisseau à feuilles persistantes, à petites fleurs blanches odorantes.
Avec lequel on fait un très bon alcool de myrte, notamment en Corse.
Voilà, donc tissu et alcool.
Autre point de difficulté, Rachid Sankaki, dans cette dictée, pour vous.
Cornouillé.
Là, j'ai eu un doute, je l'ai écrit 2LER.
Très bien.
C'est parfait. Et pareil. Alice? Et ben voilà, c'est surtout ça, non? Ce défilé des matières, est-ce que dans la grammaire, dans...
Non, le texte...
La conjugaison, il y avait des points de difficulté particuliers?
Non, aucune difficulté particulière, c'était vraiment ces tissus, en fait. Qui, je pense, ont peut-être mis en difficulté nos auditeurs.
Vous l'aimez, la langue de Zola, vous, Alice Zeniter?
Je l'adore. Ah, c'est un mélange d'une précision et d'une technicité. Alors, comme en plus, dans les Rougon-Macquart, à chaque fois, il s'intéresse à un champ différent, bah, c'est le vocabulaire d'une autre technique, d'un autre domaine, qui est mélangé à de l'argot. Bah, on a vu arriver le fameux fichu. En discours indirect, c'est un peu étonnant, c'est un peu vulgaire. On lui a un peu dit qu'il écrivait avec des gros sabots. Ce mélange-là, il est fou. Et puis, est-ce que Julien Gracq lui pardonnait jamais? C'est un mec qui met des articles indéfinis partout. Il y a une rouge qui prend quelqu'un au niveau des joues, il y a une tendresse qui s'évapore comme ça, etc. Et moi j'adore ça en fait, autant il est très très précis dans son vocabulaire et autant quand il aborde comme des émotions, il les quantifie pas, il les laisse planer. C'est un de mes grands amours, ouais.
Et Zola, ça fait partie de ces auteurs qu'on étudie au lycée, qu'on travaille à l'école, qui mériteraient d'être un peu libérés aussi de ce cadre scolaire pour vous, Jean-Noël Jeannonet, et de s'envoler à travers des textes peut-être moins étudiés aussi.
Tout peut s'enraciner dans le cadre scolaire et tout doit s'en libérer. Il suffit de passer dans la statue Madame Boussicot à Sèvres-Babylone pour penser à la fondatrice de Zola. Mais je vous rejoins de façon un peu différente. Alice Zeniter, en disant que pour moi, ce qui est très intéressant comme historien, c'est de voir comment travaille Zola et comment pour arriver à cette technicité que vous évoquiez, il fait des reportages, des enquêtes dont nous avons désormais le résumé dans les carnets de Zola qui ont été publiés. La rencontre entre cette aspiration à autre chose et au rêve et la volonté de se fondre vraiment dans la réalité, ça donne aussi l'admirable Zola du J'accuse de l'affaire Dreyfus. Il s'est exprimé à grand risque, à tout risque, au profit de valeurs magnifiques, mais il l'a fait avec une précision dans la critique du comportement des tribunaux militaires qui force encore l'admiration.
Vous avez accepté, Alice Zeniter, de venir faire cette dictée dans la voix de Rachid Sankaki avec nous aujourd'hui, les auditeurs de France Culture. Pourquoi est-ce que vous pensez que la dictée, même si l'exercice peut paraître un peu austère, un peu rébarbatif parfois, doit continuer à exister, à être pérennisée, voire réinventée, parce que c'est quand même une porte d'entrée dans cette langue si belle et si particulière qu'est le français?
J'ai pas d'avis sur la nécessité de la dictée dans les programmes scolaires. En revanche, ce que je me dis, c'est que si on l'a...
C'est pas un exercice qui vous a fâché, vous, à l'époque, non, quand vous étiez ado, lycéenne, ou collégienne avec la langue?
J'ai une sorte d'indifférence curieuse, parce que finalement, la dictée comme moyen de découvrir des nouveaux mots, comme Zanella. Mais c'est dommage, parce que je me dis que j'apprends un nouveau mot que je vais peu pouvoir utiliser, n'ayant pas de pantalon en Zanella à désigner. Après, cette idée de... Si finalement on l'impose aux enfants chaque année à l'école, alors autant que les adultes s'en emparent aussi. Comme disait Rachid tout à l'heure, autant pouvoir en effet raconter que c'est un jeu. Si c'est un pensum pour les enfants et que les adultes la fuient, alors ça n'a plus aucun sens. Alors que si tout le monde s'amuse avec, déjà elle est dédramatisée et puis oui, on peut la partager entre les générations, ça devient autre chose que cet exercice angoissant.
Pourquoi nous mettre ces mots, Rachid Sankaki, dans la tête? Est-ce qu'on est aussi en droit de dire, mais de toute façon, à quoi ça sert ou à quoi ça me sert de savoir écrire Moer, Sergé, Alpaga, Rotin ou Zanella, puisque de toute façon, je m'en servirai pas?
C'est un jeu. Après, je voulais rebondir sur le sujet de la dictée. Ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est qu'aujourd'hui, on est hyper connecté. On saisit, on a des correcteurs partout. Et c'est vrai que l'exercice de reprendre le stylo, on se reconnecte aussi. Donc la dictée en soi, c'est vrai qu'elle peut être vue comme une contrainte, la mauvaise note, mais si on enlève la note et on reprend le stylo, on s'amuse à écrire et à découvrir des mots, à chercher la définition, etc. On a un autre rapport à la dictée. Et je pense que c'est quand même essentiel de revenir à l'écriture pour pouvoir s'interroger, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, je fais souvent la comparaison avec le GPS. En fait, on rentre une adresse, on a une destination, on a juste à suivre les indications. Et l'orthographe, je pense que l'écriture, en tout cas, faut quand même garder ce mouvement, dessiner, faire de belles lettres, etc. Et ça nous permet de nous interroger.
Jean-Noël Jeannadet.
Oui, là, on sait que l'art vit de contraintes. Le civisme aussi, la culture. Je suis très favorable à la dictée, à condition qu'on y ajoute un autre exercice qui, à mes yeux, est cousin, qui consisterait à, dans toutes les écoles de France, à apprendre un nouveau mot chaque jour. Imaginez qu'on consacre 5 minutes chaque matin dans les classes primaires à prendre un mot difficile, à réfléchir autour de ce mot, de son origine, son sens, la polysémie de ce qu'il peut représenter. Je pense que c'est quelque chose qui peut servir la culture et la réflexion. Il n'y a rien de là c'est pas un gendarme qui l'imposera. Et si on ajoute de surcroît qu'on continue d'apprendre des fables de La Fontaine et d'autres vers, d'abord c'est très utile si on se trouve un jour en prison. Je ne sais pas qui sera ou n'y sera pas. Et tous ceux qui ont été en prison disent que ça les a beaucoup aidés de pouvoir réciter des vers. Vous voyez Stéphane Hessel. Mais même si on a la chance de ne pas aller en prison, je crois que c'est essentiel d'entretenir avec la langue cette sorte de relation, de commerce gourmand qui enrichit la vie. Alors oui, merci de m'avoir refait faire une dictée, il y avait un bon moment, j'étais très content.